Nous vous invitons à prendre place. Le culte va démarrer par un morceau de musique. Merci. Bonjour à chacun. Bonjour à chacun. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu de culte ce matin. J'accueille également tous ceux qui nous suivent en streaming. Je remercie tous ceux qui se sont engagés pour les divers services et qu'on ne voit pas sur cette scène. L'équipe d'accueil, de préparation des locaux, l'équipe technique qui gère la sonorisation, la projection, le streaming, et les moniteurs qui s'occupent des enfants et de la garderie. Ce matin, c'est Jean-Pierre qui animera la louange avec Barbara et puis Lionel à la musique, et c'est David Porter qui apportera le message. Pour introduire ce culte, je vous propose d'écouter les paroles du psaume 66. Je lirai trois extraits, les versets 1 à 3, le 10 et le 17. Le psaume 66. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Je crois que si nous sommes là ce matin, c'est que nous pouvons témoigner que cette parole est vraie. Ce que Dieu fait est impressionnant. La création nous le rappelle tous les jours, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est également impressionnante. Mais ce que Dieu fait dans ma vie, quand il me touche personnellement, au plus profond de moi-même, quand il répond à ma prière, moi je trouve ça encore presque plus impressionnant. C'est Dieu lui-même qui agit dans ma vie, dans ma petite et misérable vie. Waouh ! La suite du psaume continue sur cette belle lancée. Je vous invite à la lire chez vous. Donc, il y a plein de rappels de l'histoire d'Israël notamment. Mais au verset 10, il y a un brusque changement de ton. Je vous lis. C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté. Tu nous as accablés de détresse. Gloups. On parle bien du même Dieu, là. Le même psalmiste, dans le même psaume, nous affirme que le même Dieu impressionnant nous fait aussi passer au creuset. Oui, le psalmiste est réaliste. Parmi nous, ce matin, il y a ceux qui sont dans la joie et la victoire. Et il y a aussi ceux qui sont dans le creuset de l'épreuve. Alors dans la victoire, la louange paraît facile, évidente. Mais dans le creuset, est-ce même possible de louer Dieu ? Alors le psaume continue et puis au verset 17, je crois que le psalmiste donne une clé de compréhension. Et en parlant de Dieu, il affirme ceci : Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Je l'ai appelé à mon secours, sous-entendu, en étant déjà prêt à proclamer sa grandeur. Notez l'orientation fondamentale du cœur du psalmiste, de sa vie entière même. Je dirais même que dans ce psaume, il y a une bonne nouvelle. C'est que l'expression de la souffrance et de la louange peuvent coexister. Souffrance et louange, ce n'est pas incompatible. Alors, souffrance, il peut y avoir, c'est indéniable. Et on le sait tous. Il ne s'agit pas de la minimiser. Mais elle n'enlève rien à la grandeur de Dieu. Et puis surtout, et nous sommes encore mieux placés que le psalmiste pour le savoir, hein, puisque nous sommes plus tard dans l'histoire, la souffrance et même la mort, ni l'une ni l'autre n'empêche la victoire du Dieu impressionnant. Alors lorsqu'on est dans le creuset, la louange, ben c'est pas de la méthode Coué, mais c'est une expression de foi, même d'une foi qui peut-être ne tient plus qu'à un fil. Alors que nous soyons dans la joie ou dans le creuset de l'épreuve, que le Seigneur oriente nos cœurs ce matin, que le Seigneur oriente nos cœurs et nos vies entières vers lui, pour que dans un cas comme dans l'autre, notre louange soit l'expression de notre foi. Alors je passe la parole à l'équipe de louange. Il y aura deux chants, puis vous pourrez prier librement, et un dernier chant. Puis nous continuerons le culte. Alors je vous invite à prier pour ceux qui le souhaiteraient, réagir un petit peu, interagir, voilà, dans la mesure, alors c'est moins facile pour ceux qui sont en streaming, mais voilà.
Seigneur, nous te remercions parce que dans tes plans pour nous, tu as des plans de réconciliation. Et nous voyons avec les temps d'épreuve que parfois c'est l'inverse qui se passe. C'est plutôt trouver un coupable qui devient important. Je te remercie pour ce chant, jeunes et vieux. Je te remercie pour la pluralité de ta création. Et au contraire, toi, tu tires parti de toutes nos différences. Et nous te demandons de nous aider, Seigneur, à être unis et à passer ce message aussi et à ne pas chercher dans l'autre une culpabilité. C'est ce que je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Nous t'en louons, nous t'en remercions. Bonjour. Hallo. Ich bin ein Irre, der in Frankreich wohnt und manchmal gibt's nichts zwischen den Ohren bei mir. De vez em quando não tenho nada na cabeça, estou no mundo da lua. Sometimes my mind goes blank, I don't get a thing. Bienvenue dans mon monde. Toutes les semaines, j'enseigne la musique. Il y a quelques années, j'ai enseigné le piano en allemand, en anglais, en français chaque semaine. Et parfois, le cerveau ne suit pas. Avec trois systèmes aussi de notation musicale différentes, parfois une quatrième selon où l'élève avait commencé la musique. Mais je ne suis pas le seul dans cette région à parler plusieurs langues. Il y a beaucoup de gens multilingues aussi dans cette église. Mon épouse enseigne les enfants à l'école internationale qui ont des difficultés de lecture en anglais. Parfois, ils ont deux autres langues à la maison. Et puis, ils sont dans une école bilingue alors qu'ils étaient déjà bilingues avant d'arriver à l'école. Et j'ai enseigné aussi dans cette même école il y a quelques années. Et il y avait un jour, j'avais donc une petite fille qui arrivait pour son premier cours de piano. Je l'ai trouvée assez timide. Et puis après une dizaine de minutes, elle suivait exactement ce que je lui avais dit par rapport à la position des mains. Et puis, tout d'un coup, je me suis rappelé que la maman m'a dit de l'enseigner en français. Et je venais d'enseigner pendant 10 minutes en anglais. Et c'était comme si on avait trouvé l'interrupteur de la poupée. Tout d'un coup, elle a commencé à parler. Et elle qui, à 6 ans, parlait l'espagnol avec le papa argentin, polonais avec sa maman, et puis qui était dans une école bilingue. La grande sœur, qui avait 2 ans de plus, était déjà bilingue en anglais et en français, avait pas de soucis. Le problème à parler plusieurs langues, c'est que ça nous arrive d'avoir des blancs de mémoire, assez souvent. Souvent, on me dit, lorsque ça m'arrive, mais dis-le en anglais, alors que à l'instant même, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, le que je suis en train de trouver. Ça me rappelle aussi, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on habitait la région parisienne, mon épouse parlait à quelqu'un à l'église, et il y avait le mot « temps », quel temps fait-il qui lui échappait, donc elle a utilisé le mot « météo » à la place de « temps », et elle avait droit à toute une présentation de comment on fait les prévisions météorologiques, alors que pour elle, c'était juste, elle avait mal choisi le moment. Prenons le verbe « penser », avec des prépositions qui le suivent, « penser à », « penser de ». Bien sûr, les prépositions sont « autres » en anglais, sont encore « autres » en allemand. Tout comme le mot « voiture », féminin en français, neutre en allemand et en anglais, masculin en portugais. Mais là où il n'y a pas de souci pour les blancs dans notre cerveau, c'est lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense, et que notre esprit se permet de penser à beaucoup de choses en même temps, parfois les pensées que je n'ai pas choisi de penser. Là, à cet instant même, dans la tête de chacun, ils peuvent être en train de réfléchir à beaucoup de choses en même temps. Parfois les pensées que je n'ai pas choisies. Je me permets de partager avec vous les grandes lignes d'une série pour culte personnel que j'ai suivie récemment sur le monde de nos pensées. Ce message est autant pour moi que pour nous tous. Que nous soyons prêts à l'écouter et à laisser le Saint-Esprit la liberté d'agir. Dale Carnegie a dit « Nos pensées font de nous ce que nous sommes ». Henry Ford a dit « Que vous pensiez que vous pouviez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison ». Nous avons beaucoup de pensées tous les jours, en fait. De nombreux experts je crois que nous pensons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, ce qui fait une moyenne de 2 500 à 3 300 à l'heure. Remarquable, n'est-ce pas? Ce serait génial si nos pensées étaient toutes bonnes, mais beaucoup d'entre elles sont négatives. Sur nous-mêmes, sur nos circonstances, sur nos peurs de l'opinion des autres. Je pourrais être en train de discuter avec quelqu'un après l'église et tout d'un coup une pensée rentre à l'esprit de nulle part comme une flèche complètement hors sujet sur la personne, sur ses habits, sur la personne qui est debout juste derrière, sur telle personne que j'aperçois à 90 degrés avec qui j'aimerais discuter. Je pourrais être chez moi en train de faire quelque chose et tout d'un coup une mauvaise pensée passe par la tête ou en train de regarder quelque chose à la télé et la même chose se produit. On aurait honte si tout ce qui nous passait par la tête devait instantanément être projeté sur un écran pour être vu par tous dans notre entourage. La grande majorité de ces pensées ne sont pas gardées, surtout pas partagées. Mais parfois des pensées restent et j'ai l'impression qu'elles m'appartiennent. Et je me ressens comme une personne mauvaise tout d'un coup. En tant qu'adolescent, j'étais organiste dans une église anglicane à Belfast, en Irlande du Nord, et chaque dimanche, le pasteur priait une prière de confession, demandant pardon d'avoir péché en thought, word and deed, en pensée, en parole et en acte. Et souvent, je me pose la question, mais en pensée, comment comprendre ça ? Que nous ayons habituellement une vision positive de la vie ou que nous luttons tous les jours avec ce que nos esprits obsèdent, nous pourrions tous avoir besoin de conseils, je pense, quand il s'agit de nos pensées. L'apôtre Paul nous exhorte au début de Romains chapitre 12 à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec signifie littéralement « rénovation ». Donc, selon ce verset, notre transformation se produit quand notre esprit subit une rénovation. Rénovation, c'est normalement l'époque de l'année où on y pense. Lorsqu'on veut changer l'apparence de sa maison ou de son entreprise, parce que quelque chose est cassé ou c'est peut-être simplement une mise à jour. Mais quel genre de rénovation notre esprit a-t-il besoin ? Peut-être qu'on est encore concentré sur les pensées brisées qu'on a pensées pendant des années. Il se peut qu'on laisse jouer un enregistrement obsolète dans notre esprit que quelqu'un nous a dit pendant notre enfance, ou il y a des années. Est-ce plus facile pour nous de fixer sur les choses qui pourraient mal tourner dans notre vie ? Nous sommes peut-être jaloux, envieux des autres, et comme leur vie semble meilleure que la nôtre, sommes-nous peut-être submergés, vaincus par la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, nous trouvons-nous constamment à nous plaindre. Souvent, nous désignons les pensées indésirables comme négatives ou mauvaises, mais la réalité, c'est que certaines de ces pensées sont vraiment toxiques parce que si on leur permet de rester, elles font du dégât à long terme. Et affecte notre vision des choses, comment mener notre vie vis-à-vis de nous-mêmes et également vis-à-vis des autres. Un pasteur qui s'appelle Stephen Furtick a dit ceci, « Les pensées que vous gardez en boucle déterminent la direction de votre vie. » Donc, c'est vrai que nous ne pouvons pas changer toutes les pensées qui doivent être changées, mais nous pouvons peut-être essayer de changer celles qui sont toxiques, une à la fois. Pensez à vos pensées les plus courantes lorsque vous êtes toute seule dans votre esprit. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un guide pour nous aider à tester nos pensées. Philippiens chapitre 4 et verset 8 peut nous aider. La lecture que je faisais il y a quelques semaines m'a invité à écrire ce verset en trois versions différentes de la Bible. J'ai essayé d'apprendre les termes par cœur en me rappelant de la première lettre. Philippiens 4, verset 8 dit ceci. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Une autre version nous invite à penser à des choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles, admirables, excellentes et dignes d'éloge. Prenons chacun de ces termes. Vrai. L'une des choses les plus importantes à considérer lorsqu'on réfléchit à nos pensées, c'est sont-elles vraies? Trop souvent, nos pensées ne sont pas vraies. Elles ne reflètent pas la réalité. Nous devons nous concentrer sur ce qui est authentique, réel et qui s'aligne avec la parole de Dieu. Honorable, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes au plus haut rang. Nos pensées devraient être royales, pas d'une manière arrogante, mais en nous permettant de penser à ce qui honore notre roi. Juste, penser de bonnes pensées signifie permettre à la précision, à la pertinence de nous guider. Pur, c'est choisir de penser à des choses éthiques, bonnes, droites, honnêtes. Beau, ou digne d'être aimé, c'est un mot qui n'est pas beaucoup utilisé, mais il devrait l'être. Penser de belles pensées signifie voir la beauté de la vie et permettre à nos esprits de penser à ces choses. Admirable, être admiré, quelque chose que la plupart des gens veulent, mais voulons-nous des pensées admirables, des pensées crédibles, distinguées? Excellent, au synonyme de qualité morale, le meilleur du meilleur est ce qui est excellent. Digne de louange. Quelles pensées sont dignes de louange? Des pensées sur Dieu, ses voies, ses plans, sa création, pour en nommer que quelques-unes. Il est sûr de dire que lorsque nos pensées sont au sujet de lui, c'est une bonne chose. Nous ne pourrions jamais ajuster chaque pensée négative qui s'approche de notre esprit, mais nous pouvons certainement essayer de libérer notre esprit de la pensée toxique, une pensée à la fois. La Bible parle d'amener captif nos pensées. 2 Corinthiens 10 et verset 5 dit « Tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Priscilla Schirer a dit « Amener captif des pensées signifie les contrôler au lieu de les laisser vous contrôler. » Une autre traduction de ce verset en 2 Corinthiens 5, et je vais également citer le verset qui vient avant pour vous donner un peu plus de contexte. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amener captif nos pensées sera l'une des batailles les plus difficiles que nous menons. C'est une bataille de tous les jours. C'est tellement plus facile d'entretenir la pensée toxique comme si on est passif et on n'a pas le choix que de penser nos pensées qui rentrent dans la tête. L'effort vient quand nous nous engageons dans la bataille. Mais avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons peut-être commencer à gérer nos pensées avec son aide. Voici un exemple. Disons qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu dois pardonner. Et chaque jour, tu te souviens de ce qu'ils t'ont fait. Tu pourrais commencer à avoir des pensées comme « je n'ai pas vraiment besoin de pardonner à cette personne » ou « ce qu'ils m'ont fait est impardonnable ». Ce sont les pensées toxiques que tu dois amener captives. Reconnais qu'ils te causent des troubles intérieurs, ensuite choisis la vérité de la parole de Dieu. On peut prier « Dieu, je choisis de mettre cette pensée de côté au lieu de lui donner de la place ». Je sais que tu m'as pardonné tant de choses dans ma vie. Aide-moi à accorder le même pardon à cette personne. Et puis peut-être il faut le faire encore et encore jusqu'à ce que ça prenne en quelque sorte. On saura que la guérison se produit lorsque on peut regarder en arrière la situation et que la douleur n'est pas aussi intense. On le verra plutôt comme quelque chose qui nous est arrivé au passé, mais pas quelque chose qui nous arrive au présent. Pourquoi est-il important d'arrêter ces pensées toxiques? Parce qu'elles vont à l'encontre du meilleur de Dieu et nous empêchent de vivre une vie joyeuse. Parce que Jésus a passé du temps avec son Père, il connaissait la vérité, connaissait la parole, il était prêt et préparé à la tentation lorsque le diable l'a amené au désert. Il a cité la parole de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 11, nous avons ce récit, j'aimerais lire la plupart. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus venait de passer 40 jours sans manger. Mais Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une autre pensée, tout de suite après. Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et puis il a cité la Bible aussi. Jésus répond, « L'Écriture déclare aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Pas encore fini, le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » Si nous laissons constamment nos pensées toxiques monopoliser notre pensée, on ne peut pas vivre la liberté. La meilleure façon de les combattre est d'appliquer les Écritures parce que de nous-mêmes, on n'a pas la force pour faire quoi que ce soit. Mais d'appliquer les Écritures, cela nous fortifiera dans notre propre combat. Nous devons nous préparer à l'avance et ne pas essayer de le faire une fois que nous sommes dans la bataille. Lors de la guerre, les soldats ne commencent pas à chercher leurs armes quand les balles volent. Ils sont préparés à l'avance. Alors, préparons-nous en mettant nos esprits à l'épreuve et en choisissant de capturer des pensées, de amener captives des pensées toxiques au lieu de les divertir. Ne mettons fin à ces mensonges qui nous prennent en otage en déclarant la vérité de Dieu. Quelles pensées toxiques récurrentes est-ce que vous devez commencer à amener captives aujourd'hui? Une bonne idée, a dit cette étude, c'est de les noter sur papier et de trouver un verset qui fera exploser ce mensonge. On peut prier pour être dirigé vers un verset qui sera une réponse active à cette pensée. Un verset qu'on peut citer chaque fois que cette pensée revient et on peut le dire à haute voix. Et on peut le faire aussi souvent que nécessaire. Ensuite, on peut penser à une deuxième pensée et faire la même chose, trouver un autre verset. Une autre série de culte personnel que j'ai regardé récemment, c'est un mouvement, ça vient du mouvement de prière 24-7, qui souvent, lorsqu'il y a l'introduction au passage biblique de la journée, dit ceci, « Je choisis de me réjouir avec les saints du monde entier en écoutant la voix de Dieu qui me dit. » Et ensuite, est le psaume de la journée. Comme on a entendu tout à l'heure dans les psaumes de lamentation, vers la fin, souvent Dieu a entendu. Et même si le psalmiste n'a pas reçu la réponse qu'il attendait, il choisit de mettre sa confiance, encore une fois, dans ce Dieu merveilleux qui était fidèle dans le passé. Une quatrième activité, c'est de fixer nos yeux sur Jésus. L'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 12, « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Que se passerait-il si nous décidions d'être plus proactifs avec nos pensées pour éviter de réagir plus tard? Il y a encore, bien sûr, des pensées qui devront être testées, amenées captives. Nous ne sommes pas parfaits. Cependant, nous pouvons choisir de suivre l'exhortation de Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 2, qui dit « Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » En fixant nos esprits sur les choses d'en haut, nous aurons peut-être moins de pensées qui ont besoin d'être testées, prises en captivité. Il y a beaucoup de choses que nous voyons tous les jours qui sont hors de notre contrôle. Mais on peut également peut-être éviter une partie. Ce qu'on met sous nos yeux est important. Si vous sentez que vous avez trop de pensées toxiques, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Pourrait-il s'agir de choses qu'on a vues à la télévision et qu'on a continué à regarder? Ou qu'on passe trop de temps sur les médias, soi-disant sociaux, ou aux infos, la télé, Netflix, musique, podcast, on est bombardé de partout. Une conversation à la radio cette semaine sur la... en parlant de la chaîne YouTube, parler de se laisser noyer passivement en regardant un clip après un autre. Il est sage d'analyser les choses que nous voyons tous les jours et peut-être de demander à Dieu de nous montrer ce qui serait bon de diminuer ou d'éliminer complètement. Pourquoi ne pas enlever une chose pour 3 semaines et voir s'il y a une différence? Y a-t-il des choses qu'on pourrait peut-être inclure, pas simplement supprimer, qui vont nous aider à construire et à aider à créer des pensées saines à la place, au lieu de nous concentrer sur les choses qui pourraient provoquer des pensées toxiques? Soyons proactifs à l'esprit de ce que nous choisissons de mettre devant nous. En conclusion, j'aimerais évoquer brièvement une autre réalité. Et une autre préposition qui va avec le verbe penser, c'est penser de. On est souvent très rapide à dire notre opinion sur les choses, surtout dans un monde de consommation dans lequel on vit. Il y a une multitude d'experts grâce à Facebook. Ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient experts jusqu'à là. Ils se prononcent sur tout. Le problème avec les réseaux sociaux et même parfois des mails, c'est qu'on peut écrire une pensée et on n'est pas obligé de le dire à haute voix. Si notre interlocuteur était en face, dans la même pièce, on le dirait autrement, voire pas du tout, peut-être. Paul Baloche, qui était invité de la journée des musiciens au début janvier, un événement qui aurait dû avoir lieu à Lausanne, qui s'est fait sur le net, et parlait de ses amis chrétiens aux États-Unis qui se trouvent de deux côtés d'un argument politique dans ce cas. Il a qualifié les soi-disant conversations comme toxiques, où les uns se tournent contre les autres. Malheureusement, les pensées négatives qu'on peut porter pendant longtemps relèvent des blessures causées par les opinions d'autres personnes, et oui, parfois d'autres chrétiens à un certain moment. Il m'arrive de parler dans les ateliers au sujet de la louange, de la théologie, de la participation, de l'évaluation. Normalement, c'est avec ceux qui ont la responsabilité pour la louange, y compris le choix des chants. Il y a malheureusement dans tous les milieux ecclésiaux des histoires de blessures. La personne qui aurait passé du temps à répéter leur instrument ou leur chant, ou à choisir les chants, reçoivent des encouragements de plusieurs, mais aussi un retour négatif. Et cela reste pour eux un découragement profond. Parfois, ils ne veulent plus servir, ne veulent plus chanter, voire assister au culte pour éviter que cela se reproduise. On est parfois rapide à juger pour dire que le ou les chants ne nous ont pas plu, que c'était trop rapide, trop lent, trop court, trop long, trop vieux, trop nouveau, trop aigu, trop grave, trop ceci, trop cela, trop différent, trop pareil. Et j'ai mentionné que quelques possibilités de retour, il y en a plein d'autres. En se prononçant sur le message, la façon de prêcher, sur la présidence, sur les fleurs, sur toute autre chose, je pense que c'est quelque chose que peut-être le malin aime bien utiliser. Étant donné qu'on est des êtres humains, on peut avoir toute cette panoplie de réactions au sein d'une même église. Comme sur Facebook, pour une heure de la semaine, on est devenu expert à dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Au lieu d'appliquer un système d'évaluation comme dans une certaine école internationale pas loin d'ici, où si on veut donner des retours, il faut penser à 3 choses positives et ensuite un souhait. Nous, on dit tout de suite ce qui, à nos yeux, n'allait pas. Comme si on est tout d'un coup devenu expert de musique d'accompagnement, de sonorisation, de liturgie, de théologie. Et ceux qui ont donné leur temps, leur talent, qui ont essayé de servir, peuvent être blessés par des remarques mal choisies. Autant de jugements sur les formes, sur les styles, sur la louange. Mais quelque part, on est à côté de la plaque, on a raté un peu l'essentiel. On ne peut pas juger de la louange car elle ne nous est pas adressée. C'était jamais pour nous. C'est à Dieu de dire ce qui lui plaît. Dieu, qu'en pense-t-il ? Dieu ne cherche pas la mode, les divertissements. Il n'est pas limité à une seule forme ou une seule culture ou culture d'église. Dieu cherche l'homme selon son cœur. Il voit ta louange, ma louange, le dimanche matin avant de venir au culte. Il le voit également l'après-midi à la maison. L'année dernière, on avait la visite de Graham Kendrick dans la région et j'ai traduit pour eux dans une église à Genève. Il a dit « Ne venez pas à l'église pour louer Dieu. » Ah bon, j'ai traduit. Il a redit « Ne venez pas à l'église pour louer Dieu. Venez en le louant. » Et puis il a commencé à parler de notre louange personnelle selon ce qu'a dit Jésus en Matthieu 6, notre louange en secret. On chante des paroles qui disent qu'on aime Dieu et on a l'occasion de le mettre en pratique tout de suite après avec ceux qui ne partagent pas nos goûts, qui ne pensent pas comme nous. Peut-être un exercice pour une prochaine fois que vous vous sentez jeûné pendant un temps de louange. Au lieu de vous sentir obligé de le prononcer à haute voix, votre frustration, c'est peut-être de prier. Priez pour ceux qui sont autour de vous. Priez pour que le Seigneur soit honoré. Dis-lui que tu as besoin de lui à ce moment précis pour qu'il se révèle à toi d'une nouvelle manière. On est tous des êtres humains avec nos failles. On n'a pas besoin de se blâmer, mais peut-être simplement de reconnaître nos manquements devant le Seigneur et recevoir une nouvelle dose de sa grâce. J'aimerais terminer avec ces paroles d'Éphésiens 1. Je demande sans cesse au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse et des révélations afin que vous le connaissiez mieux. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Je vous invite à un temps de silence. Parfois, la meilleure réponse à un tel message, c'est de nous laisser tous devant le Seigneur en silence. Seigneur, y a-t-il une pensée que je laisse remuer, qui doit être amenée captive ? Y a-t-il une attitude que tu veux me révéler, que tu veux changer en moi? Seigneur, je reconnais ces attitudes devant toi. Je te demande pardon, je veux recevoir ton pardon et ta grâce de nouvelle manière. Je pense à quelqu'un dont l'attitude me dérange. Je prie une bénédiction d'amour sur leur vie. Prenons quelques instants dans le silence pour poser ces questions ou d'autres questions au Seigneur. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa lettre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Quand de bons intendants des diverses grâces de Dieu mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin qu'en tout Dieu, reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Pas obligé de passer du silence à un temps de prière communautaire, mais au cas où quelqu'un aimerait prier à haute voix, on va laisser quelques instants encore dans l'attitude de prière pour permettre. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, combien ils sont innombrables. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Amen.
Voilà, alors le merci pour le message et la musique. On arrive gentiment à la fin du culte. Il y aura quelques annonces. Je crois que c'est Joanne qui va les faire. Et Ludovic aussi aura quelques mots à nous dire après.
Bonjour à chacun. Alors, pour les annonces, j'essaie de les faire de tête. Le mémo de mai est arrivé. Donc, vous l'avez reçu dans le mail d'inscription. Il y avait un onglet sur lequel vous pouviez télécharger le mémo de mai. Ensuite, le culte de dimanche prochain sera avec Philippe. Alors, une petite chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Philippe a pris des vacances cette semaine. Ça lui fera du bien de se reposer. Je ne sais pas s'il nous regarde, on le salue si jamais il nous regarde. Mais il sera là pour dimanche prochain pour la prédication. Et ce mardi, il y a la réunion de prière communautaire en présence ici, dans les limites des 15 personnes maximum. Je crois que la dernière fois, il y avait un peu moins de 10 personnes. Donc ce mardi, ça devrait jouer. Et puis on rappelle encore que vous avez toujours la possibilité de faire des offrandes, soit par Twint, soit par CCP, ou mettre directement dans la petite corbeille. On vous remercie pour les dons qui sont faits. C'est ce qui fait et qui permet à l'Église de vivre, de payer des salaires pour les pasteurs, mais de faire vivre aussi le bâtiment et les différentes activités de l'Église. Merci à chacun.
Alors du coup, j'avais une première annonce pour un peu ce qui se passe avec le groupe de jeunes. Du coup, on se retrouve en présentiel maintenant avec une limite de 15 personnes ici dans cette grande salle, en respectant les règles et tout. Du coup, voilà, on a de la chance de se retrouver tous ensemble. Et ça fait vraiment de bien. Et du coup, merci pour votre soutien. Et puis pour le GRC, aujourd'hui, c'est la date limite pour répondre à la consultation. Donc on a déjà reçu beaucoup de réponses. C'est très gentil de votre part. Si vous avez oublié, c'est pas grave. Vous pouvez encore remplir le lien en ligne. Et puis, on va laisser peut-être encore ouvert un ou deux jours. De toute façon, on va faire le dépouillement un peu plus tard. Du coup, vous pouvez encore voter si vous avez oublié. Et puis, il ne faut juste pas oublier que quand il y aura le vote du conseil, il faut être membre pour voter. Du coup, il faut regarder avec le conseil si vous êtes membre ou pas et puis faire les démarches pour être membre. Du coup, voilà, merci pour votre soutien et puis merci pour vos prières pour le GRC et puis pour l'Église.
Voilà, merci. Bonjour, vous pouvez vous rasseoir, j'ai quelques mots à dire. Alors, je ne vais pas vous... Lorsqu'on a préparé le culte avec David, David a attiré mon attention sur ce qu'on appelle couramment la bénédiction, qui est ce moment qui vient là, d'où les quelques mots que je vous partage maintenant. Parce que la bénédiction, ce n'est pas juste prier pour que tout se passe bien cette semaine, hein, tout va bien, tranquille, on est couvert. Bien sûr, le Seigneur s'occupe aussi de tous les détails de notre vie et jusqu'aux cheveux qui tombent de nos têtes. Mais je décourage personne de prier pour tout cela, bien sûr. Mais ce que David m'a fait remarquer, c'est que dans la Bible, la bénédiction s'accompagne d'une charge. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Dans la Bible, la bénédiction s'accompagne d'une charge. Alors, je vous propose deux passages pour illustrer ceci. Un dans l'Ancien Testament, déjà au début du psaume 67, qui dit ceci: « Dieu, accorde-nous ta grâce et bénis-nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Ainsi on saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. » La bénédiction ici, elle a un objectif, c'est le témoignage au Dieu Sauveur. Qui est chargé de ce témoignage? Le peuple d'Israël. Le deuxième texte est bien connu et Clémentine l'a cité dans sa prière. Celui-là, il commence par la charge et il termine par la bénédiction. Il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai commandé. » Ça, c'est notre charge. Et puis la bénédiction, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors attention, précision très importante, juste avant d'envoyer les disciples, Jésus précise « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Bénédiction et charge, bénédiction et mission. C'est Jésus-Christ qui nous bénit, c'est Jésus-Christ qui nous envoie. La mission est claire, témoigner du Dieu sauveur, du Dieu impressionnant que nous avons. C'est notre orientation de cœur, celle de notre vie entière, qui seront un témoignage. Quant à la bénédiction, elle est triple. Elle encadre et accompagne la mission confiée par Jésus. En amont, avant la mission, il y a l'œuvre du Christ à la croix qui assure notre salut. La mission ne consiste pas à gagner son salut, mais à en témoigner. Durant la mission, je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, dans les victoires comme dans le creuset de l'épreuve. Après la mission, il nous attend auprès du Père et sera avec nous pour toujours. Alors que cette perspective nous permette de nous engager courageusement dans la semaine qui s'ouvre devant nous. Alors, entrez dans les bonnes œuvres et dans les bonnes pensées que le Seigneur a préparées d'avance pour vous. Amen.